A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
La vie a quelque chose de merveilleux, je vous assure. Elle recèle de trésors cachés. Et notre invité est un de ces trésors cachés, un de ces hommes qui travaillent dans l'ombre sur des questions essentielles pour notre monde mouvant. Jonathan Haovi, c'est son nom, vient de quitter son Jura pour nous rejoindre à Paris et entre nous, le voyage, ça le connaît. Né dans ce pays surnommé dans les années 80 la petite Suisse de l'Afrique, c'est-à-dire au Togo, il a suffisamment de kilométrage, de bagages et de métissage pour mettre sa blouse blanche au service des migrants et plus généralement des exilés. Psychiatre des hôpitaux, chef de service de la maison des adolescents du Jura, il donne aux côtés de Marie-Rose Moreau, que vous connaissez sur RFI, des consultations transculturelles à la Maison de Solène à Paris pour apaiser les souffrances de l'exil. Son cheval de bataille, ces mineurs étrangers isolés dont on souhaitait vous parler dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés du 20 juin, journée qui mérite ne serait-ce qu'une solidarité d'écoute.
On a fait 7 heures de route dans le vide. On s'est trompé de route. Nous sommes allés jusqu'au niveau de la vallée étroite. On a croisé d'autres personnes sur la route. On les a demandé la route de Briançon. Ils ont dit que c'est comme ça. Donc ça nous a beaucoup encouragés. Mais on avait peur de s'approcher au village parce que la police, à chaque fois, ils circulaient. On a marché. Ce qui était en Italie, j'avais mal aux pieds. Et ça me faisait très mal parce qu'il faisait trop froid. Et surtout, il y a de ces parties, au cours de la route, il faut traverser l'eau. Et quand j'ai mis mon pied dans l'eau, je ne pouvais plus sentir mon pied.
Je m'appelle Rosé, j'ai 17 ans, je suis né en 2000. Je suis né de la Guinée Conakry. J'ai fait prison à la Libye. J'ai fait prison deux fois. Le premier prison, j'ai fait un mois. Le deuxième, ça fait 3 mois. On nous a torturés même. Il y a les plaies. On nous a mis en prison pour nous dire que appelez vos parents d'envoyer l'argent. Maintenant, à chaque matin, on vous frappe. On vous donne téléphone. Tu pleures dans le téléphone pour que tes parents puissent comprendre que tu es en prison. Et puis tu pleures pour que tes parents comprennent que oui, mon enfant il est au prison pour que tes parents puissent avoir l'argent pour qu'on puisse te libérer. C'est comme ça. On a trop vu à Libye, on ne peut pas tout expliquer. C'est trop dit.
Quand les mineurs sont abandonnés dans la montagne, on avait envie d'ouvrir cet en sol majeur avec ce reportage de Raphaël Kraft de nos amis de France Culture. Bonjour Jonathan Haovi.
Bonjour Yasmine.
Quelle est la première pensée immédiate quand vous entendez ce type de témoignage?
Mal aux pieds. Froid. Je pense noyade. C'est pas un mot qui a été prononcé. Mais comme je ne sais pas nager, c'est traverser la Méditerranée sur l'eau. Enfin, c'est quelque chose qui m'effraie. Et puis l'accueil qu'on réserve à ces héros, j'ai choisi ce mot aujourd'hui, il n'est pas bon.
Vous avez mal aux pieds, c'est-à-dire que vous vous identifiez immédiatement à ce témoignage de migrants?
Je le suis, même si je n'ai pas eu le parcours des migrants, puisque je suis venu en France pour étudier dans des meilleures conditions de voyage. Mais quand même, on partage quand même certaines peurs.
Alors, il n'y a pas d'arbre à palabre hein, dans le studio de RFI, vous le voyez vous-même, mais on n'est pas absolument tout seul. Il y a un abécédaire pour vous accompagner et puis un chapeau de questions en sol majeur.
Joli, tu plais à mon père, tu plais à ma mère, salade de fruits, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
Quelle est la carte géographique de votre histoire?
La carte géographique, c'est-à-dire que je suis né au Togo, à Gounyombo, dans la montagne, dans une région qu'on appelle la région des plateaux, Kloto, où on cultive le café et le cacao. Et puis, très rapidement, mes parents, mon frère et moi, parce qu'à l'époque, on était une famille de 4 personnes, on est allé au Cameroun.
Pourquoi au Cameroun?
parce que c'est l'endroit où il y avait une école de théologie où mon père souhaitait étudier la théologie.
C'était pas possible au Togo ?
À ce moment-là, non. Aujourd'hui encore, je crois. Et donc, on est allé au Cameroun, et là, mes premiers souvenirs sont des souvenirs de préparation de voyage, parce qu'il fallait qu'on reparte, parce qu'il y avait la guerre. Et mon père ayant été menacé, puis peut-être l'école de théologie aussi était menacée, tout simplement. Donc nous sommes partis au Dahomey, à Porto Novo.
Bénin, aujourd'hui.
Au Bénin, aujourd'hui, où il y avait aussi une école de théologie. Puis nous sommes revenus au Togo. Mais je me souviens de ce voyage à l'arrière d'un fourgon, un dindon, on appelait ça, c'était des Citroën, je crois. Et il n'y avait pas de fenêtre. Le chauffeur s'arrêtait de temps en temps pour qu'on respire.
Alors vous dites votre père était menacé, hein. Il a été menacé au moment de cette guerre civile qui a touché le Cameroun dans les années 60. Il s'est même retrouvé à un moment donné en fâcheuse posture, hein. Il a été mis en joue.
Il a été mis en joue.
Pour quelle raison ?
Je ne sais pas, je pense que peut-être parce qu'on n'était pas du coin. Peut-être parce qu'il ne parlait pas le bambara, je pense.
Et parce qu'il avait des activités politiques lui-même ?
À ce moment-là, peut-être, mais je ne le sais pas vraiment. Mais en tout cas, c'est un homme engagé par la suite. Donc je pense qu'il avait choisi un camp.
Vous repartez au Togo en 1965, où là vous faites votre scolarité, Jonathan Aovi, chez une missionnaire allemande.
Oui, Madame Fiering.
Togo, Cameroun, Bénin, Togo, ça fait une sacrée salade de fruits tout ça.
Oui, déjà. Déjà, mais salade de fruits, en réalité, la vraie chanson, salade de fruits, c'est Bourville, je crois. C'est la première chanson non-africaine dont je me souviens. Et on s'est promené un jour à Porto Novo, je pense que c'est un dimanche après-midi. Cette musique s'échappait d'une boutique à côté, et ma mère s'est mise à chanter, et c'est mon plus vieux souvenir, je pense, de ma mère. Mais ma mère n'a pas été à l'école, donc elle parlait en français, mais je ne suis pas sûr qu'elle comprenait tout, je ne pense pas.
Une salade de fruits, parce que donc entre le Bénin, le Cameroun et le Togo, une question, une première en tout cas, vous les situez où vos attaches africaines ?
Au Togo quand même, mais je suis un Togolais ayant été à l'école en ville, mais tardivement, c'est-à-dire je suis un Togolais de la campagne.
Vous êtes un paysan ?
Je suis un paysan,
Jonathan.
je suis resté même
oui
en France. Je le proclame un petit peu,
je le revendique un petit peu. Vous le proclamez complètement même.
Bon. Voilà.
Ce Togo, donc, qui va constituer une grande partie de votre matrice. Et puis les années Eyadema Père, qui vont rester sans doute ineffaçables en vous. Car c'est un personnage, hein, c'est un général dictateur qui construit son mythe sur des rumeurs, sur des légendes, comme celle liée au fameux crash de son DC-3, un certain 24 janvier 1974, dont il serait sorti seul rescapé, et ce qui lui vaudra le surnom de Miraculé de Sarakawa.
Sur le champ de bataille, quand on va à la recherche de l'ennemi, tout un bataillon, il y a les éclaireurs de pointe qui sont sacrifiés à la mort. Moi, je suis éclaireur pour le Togo. Je suis prêt à mourir pour le Togo. Vous savez, mes amis, quand vous êtes en brousse, comme chasseur, il ne faut jamais tenter de tirer sur un buffle si vous n'êtes pas sûr de l'abattre sur place. Si j'étais mort, il aurait gagné. Je ne suis pas mort, c'est moi qui ai gagné.
Bref, et là je vais conclure à votre place, président Eyadema. Les dieux et les fétiches du Togo ayant parlé, général, je crois que vous êtes sorti vivant de cet attentat. Et on le sait, le peuple togolais le sait, vous ne pouviez être qu'invincible. On a fait d'ailleurs passer cet attentat pour un complot impérialiste français, c'était la méthode à l'époque. Vous aussi, Jonathan Aovi, vous avez grandi dans cette croyance.
Oui, on a grandi tous dans cette croyance. Et puis c'était protecteur, parce qu'un mot mal utilisé pouvait mettre en danger la vie de la famille. Et ça reste encore aujourd'hui. D'ailleurs, on a grandi avec la peur de toute autorité, en tout cas policière, militaire, et encore aujourd'hui. Je tremble comme une feuille morte si on demande mes papiers, contrôle de police en France.
Et même aujourd'hui, 40-50 ans après tous ces événements, vous avez du mal à dire, ben voilà, vous le connaissez, ce DC-3 ?
Oui. Oui, je suis allé dedans après l'accident. Parce qu'il est resté longtemps en épave à côté de l'aéroport de Lomé. Et j'étais adolescent, donc on faisait des choses interdites. Oui, je suis allé voir.
Qu'est-ce que vous avez fait encore d'interdit ?
Bon, un peu avant plutôt. J'étais peut-être un peu rebelle. J'avais refusé de chanter des chants patriotiques. Ça m'a valu des fessées devant l'école pendant une semaine. Enfin, je m'en souviens. Je n'ai plus mal aujourd'hui, mais je m'en souviens.
Mais la peur est là.
Oui, on a grandi dans la peur qu'il arrive quelque chose d'arbitraire, une arrestation, une disparition.
Est-ce que c'est ce qui vous a empêché, cette peur, d'avoir vous-même des activités politiques, des activités d'opposition comme votre père ?
Ou comme mon frère, d'ailleurs. Mon frère Yannick programme encore aujourd'hui sa position. Non, je crois que je suis un garçon craintif. Je crois que c'est mon tempérament.
Mais en même temps, vous aviez des yeux pour voir
et... J'avais des yeux pour voir. J'ai fait une rédaction au collège où on devait... Le thème général, je me souviens, c'est peut-être la rencontre avec l'Occident, des choses comme ça. Et donc, j'avais fait une composition métissée, je pense.
Qu'est-ce que c'est qu'une composition métissée ?
J'ai écrit que les rencontres entre les cultures étaient fécondes, ou quelque chose comme ça. Pourtant, j'étais dans une école où ça aurait été bien entendu, parce que j'étais dans une école confessionnelle. Et ben, ça m'a valu quand même une mauvaise note, parce qu'il fallait être contre l'Occident, enfin contre la France, à ce moment-là, après cet attentat notamment.
Mais vous aviez aussi un regard concerné peut-être sur ce qui se passait dans la société, on va dire, togolaise. Les questions liées à la sociologie, aux droits des enfants vous ont interpellé assez tôt. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que vous avez pu voir dans ce Togo des années 70-80 qui vous sensibilise à tout ça ?
Même les années 60, la fin des années 60-70. C'est la servitude culturellement, enfin dans les familles. Les enfants des campagnes n'allaient pas à l'école et étaient au service d'autres enfants dans les familles. Ça leur assurait la nourriture. Donc ça arrivait assez souvent. Donc c'est une forme d'esclavage quand même. En tout cas, moi je suis éveillé chez les Évé, chez les Mina, peut-être chez les autres aussi, ça se passe comme ça. Mais c'est quelque chose qui me choquait déjà, beaucoup, enfant.
Alors puisqu'on en parle des Évé, allons voir. Je voudrais que comme Alice au Pays des Merveilles, Jonathan Haovi, vous rapetissiez tout d'un coup, que vous redeveniez
volontiers
cette petite oreille collée au poste de radio. On est dans la fiction un peu. En ce 27 avril 1960,
oh ben j'étais petit.
Voilà, jour où cette langue s'est fait entendre, jour de l'indépendance du Togo.
Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La nuit est longue. Mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. Ahueto, Obiam Benyem Glole, Vogweme, Made Gomene Mile, Miade Gweme, Nyembunabe le Bevere, et Nyareka, Wenyinya Gare Matolemia, le Gabo Poeme, Mitrazu Ablore Vio, Mille Miero Kosi.
Un document RFI qui fait que vous êtes tout petit, Jonathan Haovi, dans ce Togo qui vient de naître, avec la voix de Sylvanus Olympio, en Évé notamment. Alors justement, pour évoquer ces Togolais du Sud, cette famille d'Évé dont vous faites partie vous-même et qui, vous me le disiez, avait ou ont toujours une relation particulière avec l'ancien colonisateur allemand.
Oui. Les Évé ont gardé un lien d'admiration pour l'Allemagne. Vous connaissez le phénomène des Nana Benz, par exemple ?
Non.
Les commerçantes qui vendent du tissu à Lomé, qui sont Mina ou Évé, le plus souvent, deviennent très riches. Et la marque de cette richesse, c'est d'acheter une Mercedes que nous, on appelle Benz. Donc, Nana Benz. Elles auraient pu acheter des Peugeot. Ensuite, il y a la bière. Les Allemands ont laissé la culture de la bière. Donc on boit beaucoup de bière. Il y a aussi de la bière dans tout le Togo, pas que chez les Évés, mais les brasseries. La brasserie allemande qui est devenue la brasserie du Bénin au Togo. Bénin, c'est tout le Golfe, se trouve un peu au nord de Lomé.
Donc voilà. Vous décelez une fascination chez les Évés du Sud et chez les gens du Nord au Togo. Qu'est-ce qui se passe? La fascination va vers le colonisateur français?
Je pense. Il y a une espèce d'opposition stupide entre Togolais du Sud et Togolais du Nord.
Enfin, a été fabriquée aussi
a été instrumentalisée aussi assez largement et par la France. Les Allemands, ça ne les intéressait pas, mais j'y étais pas. Je pense que ça ne les intéressait pas. Les Allemands, ce qui les intéressait, c'était une position stratégique au Togo et militaire. Mais c'est connu dans la France-Afrique, ces façons de faire, d'opposer les gens. Mais je ne voudrais pas qu'on cherche la raison de notre mésentente à l'extérieur. Il faut aussi penser que les Évés ont été très désagréables avec les Kabyés du Nord ou... Malheureusement, je crois que ces choses demeurent dans l'inconscient, un complexe de supériorité au sud, un complexe d'infériorité au nord, ce qui crée des rencontres qui peuvent être violentes.
C'est
comme Cosmogonie.
Jonathan Aovi, vous avez donc quitté plusieurs terres en emportant, j'imagine, quelque chose qui vous aidait à tenir. Il faut tenir. Est-ce que la foi, est-ce que la ferveur religieuse, c'est quelque chose qui a pu vous permettre de tenir par rapport à tous ces arrachements?
Oui, absolument. Seul, au lycée par exemple, en France, ce que je n'ai jamais dit à personne, c'est que j'avais peur. Et que je m'isolais assez régulièrement pour lire la Bible.
Vous aviez peur de quoi?
Une peur qui est en moi. Je suis un craintif. J'avais peur de l'autorité.
Des Blancs aussi?
Des Blancs aussi. J'avais plus peur des Arabes. J'ai mis longtemps pour ne plus avoir peur des Arabes, puis des Chinois, puis des Japonais.
Du fameux métissage.
Oui, mais j'ai mis
très
longtemps.
Que vous défendez aujourd'hui.
Oui, c'est un travail profond intérieur. Mais moi, je ne connaissais pas les Maghrébins. On racontait qu'ils étaient violents. Et donc, comme j'avais peur physiquement pour moi, je changeais de trottoir quand je croisais un Arabe.
Et est-ce que votre mère aurait joué un rôle, elle qui était, je crois, très religieuse?
Oui.
Est-ce que son univers à elle vous a permis, sa conception peut-être religieuse du monde, vous a permis de tenir?
Oui, ça m'a permis de tenir, même si je dis que c'est ma chance et ma plaie en même temps. Finalement, c'est une foi en Jésus-Christ, mais construite sur un héritage animiste. Bon, ma mère n'était pas vaudou, mais fétichiste, en tout cas pas elle, mais c'est la famille maternelle, ce qui m'a fait dire de son vivant à ma mère que j'allais devenir vaudou, ce qui l'a beaucoup provoqué. Mais cette distance que moi j'ai pu l'avoir progressivement, à partir d'une forme de confiance quand même, qu'elle a pu me transmettre quand même, une forme de sécurité quand même, dans la transcendance. Et je continue de penser aujourd'hui que cette transcendance, elle est importante pour ne pas être l'alpha et l'oméga, moi-même, pour aller vers l'autre. Initialement, elle était là pour me protéger, moi, dans ma petite vie.
Ce qui protège parfois, c'est aussi l'arbre généalogique. Alors, qu'est-ce que vous savez de ces fameux ancêtres, Jonathan Aovi? L'histoire familiale raconte qu'une partie de vos ancêtres viennent peut-être d'Éthiopie.
Oui, ou d'Égypte.
Ma question, par rapport à ces ancêtres qui viendraient d'Éthiopie, c'est est-ce qu'il y aurait des falachas dans votre famille? Ce que l'anthropologue Tidiane Ndiaye appelle les nègres errants du peuple juif.
Oui, oui, même si je ne... En tout cas, ça me questionne encore, puisque ça a sûrement alimenté mon intérêt pour Israël. C'est peut-être un fantasme, j'en sais rien, mais je pense que nous avons quelque chose de falacha.
Jusqu'où va votre intérêt pour le peuple hébreu?
Sur, ça trace une ligne claire pour moi, que je ne peux pas franchir, c'est l'antisémitisme. Mais je traque l'antisémitisme.
En même temps, si vous aviez appris que effectivement vous faites partie du peuple élu, Jonathan Haovi, qu'est-ce qui prédominerait à vos yeux, la notion de race ou de religion?
Ni l'un ni l'autre. Parce que je ne crois pas aux races. Et puis, ben, je crois plus à la transcendance. Ce qui est important pour moi, si je devais laisser quelque chose à mes enfants, c'est tout ne commence pas par moi et tout ne se finit pas en même temps que moi. Ceci étant dit, je ne suis pas dans une confusion générale. Hein. Moi, je...
C'est vrai qu'on s'y perd un peu.
Hein. Oui, non, mais s'il fallait... Ben je resterai ce que je suis, parce que mes parents m'ont fait comme ça.
Donc un évé animiste protestant.
Un évé vaudou protestant. Et juif, si on me le permettait.
Puisqu'on tourne un petit peu autour du pot, c'est-à-dire notamment autour de la croix et des fétiches, oui. Apparemment, on peut faire une petite place à B.B. King.
Ah oui, ah oui.
On peut dire qu'après l'église baptiste de son enfance, où il a commencé à chanter, lui, sa religion, c'était plutôt le blues. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui?
Sa lenteur et, on va dire, sa banalité.
Sa lenteur et sa banalité.
Oui.
C'est la première fois que j'entends dire que c'est des qualités.
Ah oui, mais moi je suis lent et je pense banal. Et je retrouve chez B.B. King, qui n'a rien de saillant, tout ça.
Vous chantez vous-même « When it all comes down »
Un peu mal. Un peu, mais...
J'ai vu votre regard.
mais mal, oui.
Mais mal?
Oui. Mais j'aime bien l'écouter.
Mais mal, ça suffira. The world goes round. No one knows what it all means. You're still out there. Vive B.B. King sur RFI avec When It All Comes Down. Vous vous débrouillez pas mal, hein, Jonathan. Vous faites quoi, vous, quand tout va mal? Vous faites quoi?
Quand tout va mal, j'écoute de la musique ou je chante.
Ouais. C'est un remède imparable.
Oui,
ça.
Mais ma mère faisait ça. Surtout quand elle avait peur.
Elle avait peur aussi, votre mère, alors?
De tout. Du silence.
Bah, vous êtes guéri.
Presque.
Pour le silence. Togolais, français, ancien migrant croyant, protestant, vaudou, psychiatre, notre invité Jonathan Haovi, c'est tout un monde.
Sol majeur,
en version originale, non sous-titrée.
Quand vous doutez, vous faites quoi? Quelle est la première chose que vous faites quand vous arrivez au Togo? Est-ce que vous pensez qu'on peut aimer dans plusieurs langues? Pourquoi? Merci Jonathan Ovi d'avoir joué ce petit jeu en sol majeur. Vous ressentez quoi quand vous parlez comme ça en éveil à un interlocuteur qui est francophone malheureusement?
J'ai l'impression que vous me comprenez. J'ai l'impression que c'est universel. Mais je crois que vous me comprenez.
Alors maintenant, vous pouvez la remettre, votre blouse de psychiatre, parce qu'effectivement, ce petit exercice qu'on vient de faire là, il se passe un peu dans vos consultations transculturelles. Souvent, le patient s'exprime dans sa propre langue.
C'est important de faire une place à la langue. Marie-Rose Moreau, mon amie, nous a beaucoup confortés sur ce chemin-là, de la place de la langue. Parce que tout ne se dit pas de la même façon. D'une langue à l'autre. Bon, nous, on dit, les psys disent que la langue, c'est la culture. Mais c'est aussi les petits riens, les silences aussi, les choses qui ne sont pas les mêmes d'une langue à l'autre.
Les doudous.
Les doudous.
De l'âme.
Voilà. Je suis d'accord avec cette façon de dire les choses. Les doudous de l'âme. Et ces doudous de l'âme existent dans toutes les langues, mais pas de la même manière d'une langue à l'autre. Et il faut permettre aux gens d'avoir leur propre souffle, je dirais, dans leur langue. Regardez, c'était pas rien pour moi de parler en éveil. Ça m'a fait quelque chose, hein. Les auditeurs ne voient pas, mais j'étais tout rouge.
Parce que c'était une timidité qui...
Bon, je suis timide, mais quand même, quand je vous aurais quitté, ça m'aura soigné quand même un peu, pensé, des petites plaies que j'ai. Quand je doute, finalement, je cherche un mot dans ma langue qui m'apaise.
En tout cas, pour que ces consultations transculturelles soient possibles et fécondes avec cette population qui touche souvent les migrants, les exilés, vous avez, avec Marie-Rose Moreau, qui dirige donc la Maison de Solène à Paris, pensé qu'il fallait reconstituer ce qu'on appelle un arbre à palabres dans ces consultations, c'est-à-dire...
Le dispositif que Marie-Rose Moreau a proposé, c'est un dispositif qui est soignant déjà en soi, c'est un dispositif groupal qui met ensemble... plusieurs co-thérapeutes. Un des thérapeutes est le thérapeute principal qui reçoit la parole et qui la donne aussi. Ce dispositif, qui est comparable effectivement à l'arbre à palabre des éveils, par exemple, dès qu'on se rencontre pour dire des choses même simples, on se met en groupe et quelqu'un est habilité à recevoir la parole et la distribuer. Ce dispositif en lui-même, il est soignant. Il autorise toute forme de pensée, les possibilités, tous les possibles, et autorise les patients à dire ce qu'ils pensent
il
et
désinhibe.
Comment ils comprennent. Il désinhibe et contient et porte.
C'est l'équivalent quoi d'un conseil de famille?
C'est plus que ça, parce que je pense que dans une famille, il y a une direction. Mais dans notre dispositif, toutes les conceptions du monde sont équivalentes. Donc, c'est-à-dire le monde a plusieurs nombrils, comme je le dis.
Ouais. Et tout le monde est le thérapeute de l'autre?
J'irais même plus loin. C'est que les patients sont des thérapeutes de nous. Aussi. À leur insu. Surtout les enfants. Si on écoute bien les enfants, ils sont simples. Ils trouvent des manières assez simples de résoudre des problèmes compliqués à la manière des rêves. Les rêves, c'est des fois touffu, des fois compliqué. Mais enfin, il y a toujours une solution à des questionnements compliqués, complexes en tout cas. Dans les rêves, on les trouve. Et les enfants sont des rêveurs.
Et il y a une manière universelle d'être enfant?
Je pense, oui, il y a une manière universelle d'être enfant. Ce monde magique qu'ils savent bien habiter. Et ça, je pense que c'est universel.
Est-ce que le fait que vous soyez dans une multiple, mais en tout cas une double culture, Jonathan Aovi, c'est un outil indispensable pour décrypter ce qui se passe dans ce genre de consultation transculturelle ?
Certainement, même si j'essaye de... Je ne pense pas qu'il y a une double culture. Je pense qu'il y a une culture multiple. Mais le fait que je sois élevé migrant français, ça joue sûrement comme une grande langue, plutôt que comme l'association de deux langues. Moi, je pense que c'est plutôt un élargissement.
Vous proposez un cercle plus large.
Plus large.
Ouais. Quelle est la mission de la Maison des Adolescents que vous dirigez dans le Jura ?
Alors, les Maisons des Adolescents en France ont un cahier des charges. Les Maisons des Adolescents proposent selon les endroits ce qui convient. Dans le département du Jura qui est disséminé, on ne peut pas faire les choses comme dans une grande ville. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait mettre l'accent sur la formation des professionnels aux difficultés des enfants, des adolescents, migrants ou non, mais migrants parce qu'on risque d'oublier ce dont ils ont besoin. Donc, nous mettons l'accent sur la formation des mineurs non accompagnés, par exemple, sinon ça ne s'improvise pas. Voilà, donc nous mettons l'accent là-dessus. Mais nous mettons l'accent en général sur les manières de soigner les bébés, les enfants et les adolescents pour que dans un département disséminé, on ait plus de chances de tomber sur quelqu'un qui a été formé ou sensibilisé à la question.
Ouais. Alors, je vais donner un chiffre pour en sol majeur. Le nombre de migrants mineurs pris en charge par l'aide à l'enfance est passé de 4 000 en 2010 à 13 000 en 2016 à 25 000 en 2017. Moi, j'appelle ça une explosion. Pour en sol majeur, j'aimerais bien qu'on écoute le témoignage d'un mineur isolé étranger que vous encadrez, Jonathan Aovi. Il s'agit d'Oumar, arrivé de Guinée, en France, à Dole, chez vous, avec son passeur.
Il a dit qu'il allait me garder, en fait. Mais c'était pas ça. Et il m'a ramené sur Dole. On est resté sur Dole ce soir, et puis le matin, et puis il m'a laissé comme ça. On a fait un trajet de malade dans les montagnes et tout. Et j'étais vraiment... Je me suis dit, je suis pas sur le bon planète, là. Et aujourd'hui, les jeunes qui viennent, je vois plein qui viennent. Ils ont besoin de quelque chose. C'est pas un grand truc, en fait. Ils peuvent s'en sortir. Ils ont des capacités. Ils peuvent vraiment être utiles à la société. Mais ces jeunes, ils sont détruits déjà. Ils n'arrivent pas à se construire. Et là, j'ai fait ma place. J'essaye de toujours montrer que j'ai des valeurs et tout. Mais ça marche.
Témoignage recueilli donc par France 3 Besançon dans votre maison des adolescents du Jura, Jonathan Aovi. Alors, en écoutant en sol majeur Oumar, mineur donc, arrivé de Guinée, je repense à une communication que vous avez coécrite avec Marie-Rose Moreau qui va paraître dans la revue Avicenne l'Andalouse. Communication où vous dites notamment « L'endroit où l'on est est sacré, comme l'est le temps de la naissance, c'est le nombril du monde ». Alors, pour un Oumar, le sacré est où maintenant ?
Je pense que pour Oumar, le sacré est là où il est né, quand même, en Guinée. Le secret est venu avec lui, en France.
Le secret ou le sacré ?
Parce que l'endroit est sacré et secret. Mais c'est-à-dire sacré, l'endroit où il est né. Secret, plus tard, le voyage qu'il a fait. Et j'associe sacré et secret. Et son monde est un peu dans un lieu fixe, et aussi dans ce voyage-là.
Alors, quel est votre travail à vous, psychiatre, pour que lui, qui a laissé cette terre sacrée et son secret derrière lui, puisse s'agréger à notre société ?
D'abord, le reconnaître, en s'intéressant vraiment à lui, en le rencontrant vraiment. Ça signifie en donnant un temps, j'allais dire un temps qu'on va chercher dans son ventre, à Oumar mais aussi aux autres, mais ils le sentent.
C'est-à-dire en accueillant le monde intérieur avec lequel il vient,
oui.
Cette reconnaissance fait que lui-même peut s'ouvrir à un autre monde qu'il accueille.
Exactement. Mais pour ça, il faut accueillir Oumar avec son oreille.
Oui,
si je dis avec son cœur, les professionnels vont dire oui, mais vie professionnelle. Mais bon, il faut l'accueillir avec un organe des sens. que nous avons. Moi, je dis l'oreille, parce que quand j'écoute les gens, je ferme les yeux. C'est peut-être un peu ma timidité, tout ça, mais j'ouvre les oreilles.
Le cas de ces mineurs est très problématique hein, en France. Ils sont discriminés de mille et une manières, et notamment, ils sont discriminés dans nos hôpitaux. Et vous avez pris, vous, Jonathan, un engagement par rapport à cette question.
Oui, clairement. Hein. Les mineurs, ils ne sont jamais bienvenus, de toute façon. Mais ils sont encore moins bienvenus aux heures d'affluence, aux urgences. On a quand même autre chose à faire. Il y a des vrais malades. En plus, ils ne parlent pas bien la langue. Ils sont habillés comme ils peuvent. Mais moi, je les trouve très élégants. Mais bon. Et donc, ils mettent longtemps à exprimer les choses. Puis on ne comprend pas bien parce qu'ils ne correspondent pas aux standards habituels.
Et les hôpitaux n'ont plus le temps aussi. Les hôpitaux n'ont plus le temps.
Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont plus le temps. Mais ça se voit particulièrement quand il s'agit d'accueillir ces gens-là.
Que dit la loi pour eux?
La loi, c'est qu'isolés, non accompagnés, ils sont mineurs. Ils doivent être traités comme des mineurs. Le reste, dans un hôpital, on s'en fout. C'est pas ce qui se passe.
Quel type de pathologie, vous rencontrez le plus chez ces mineurs étrangers?
Des manifestations, un blocage. Nous, on parle de psychotraumatisme, ou même des idées suicidaires. C'est-à-dire, ils pensent que si ça ne marche pas, alors leur existence n'a pas de sens. Sinon, des dépressions profondes. Les études montrent une prévalence importante de ces manifestations-là.
Il y a un mot qui revient aujourd'hui beaucoup, notamment dans ce débat sur l'identité nationale qui a un peu pollué, je dirais, notre paysage intérieur et notre récit peut-être national, c'est le mot ADN. Est-ce que l'ADN, c'est quelque chose qui compte pour un individu?
Vous faites bien de me poser la question parce que je pense que ça compte, mais l'ADN ne fabrique pas un sujet. Non, je crois beaucoup à l'ADN. J'ai pas fait d'études dans ce sens, puis je suis pas assez calé pour dire, mais il me semble que l'ADN règle le rythme dans lequel on s'adapte à son environnement. Par contre, l'environnement, les rencontres signifiantes qu'on fait, ou agréables ou désagréables d'ailleurs, sont importantes. On sait que si on met des jumeaux vrais dans deux environnements différents, on fabrique, avec le même ADN, on fabrique pas le même sujet. Et donc, pour moi, l'ADN, ça flatte les parents qui, d'ailleurs, on nous a raconté, nos grands-parents sont nos grands-parents, on en parlait tout à l'heure, mais ça se trouve, ils n'y étaient pas. Mais les adolescents, en tout cas, c'est pas ça qui les construit. C'est ce qu'ils se racontent, comment ils connaissent, comment ils rencontrent leurs parents et comment ils les adoptent.
Comment ils fabriquent leur propre récit.
Leur propre récit, alors. Voilà. Donc moi, je pense quand même qu'on en fait trop pour l'ADN, parce qu'on sait mettre en pipette. Mais non.
On évoque assez peu la situation des métis dans notre société. J'invite d'ailleurs nos auditeurs, c'est facile, en un clic sur Internet, pour ceux qui peuvent en tout cas, à lire ce que vous avez écrit dans la revue L'Autre, un article intitulé « La spécificité des métis ». Et vous, le psychiatre Jonathan Aovi, vous y réfléchissez, à ce travail d'identité hein, très spécifique que le métis a à fournir. Et c'est pas une histoire simple, c'est une rude épreuve même, car vous dites notamment que le métis est en fait le fruit d'une transgression.
Oui, le métis est le fruit d'une transgression. Transgression, c'est qu'il faut désobéir à une prescription ancestrale.
Moi, blanche, j'épouse un noir ou je fais un enfant avec un noir, oui. Je transgresse ma lignée.
Totalement, puisque, comme dirait la plantine et nous, c'est l'anti-métissage qui fait loi. Alors, il arrive quand même que des gens aient le fantasme d'avoir, quand on est noir, un enfant blanc ou quand on est blanc ou blanche, un enfant noir. Mais c'est déjà une transgression.
Oui. Donc le métis, l'enfant métis, a déjà cette bosse, si j'ose dire, sur son dos.
Cette bosse sur son dos. Et ensuite, on va essayer de l'enfermer, positivement ou négativement, majoritairement ou minoritairement, dans l'un ou l'autre. Alors, les métis, je pense, ne comptent pas un ou deux, mais trois, deux, trois, et toujours à côté. Moi, j'en ai fait l'expérience, hein, dans ma propre vie, mes enfants. Si on veut qu'ils soient lorrains, alors ils sont africains. si on veut qu'ils soient africains, alors ils sont français, doulois, enfin c'est compliqué. Donc c'est pas à moitié l'un, à moitié l'autre.
Donc c'est pas l'enfant métis qui a un problème avec son métissage, c'est l'environnement qui a un problème avec le métis.
C'est l'environnement qui a un problème avec le métis, le métis il est lui.
Faut le dire haut et fort. Beaucoup de choses en tout cas à en dire et à repenser parce que nos sociétés vont sans doute devoir composer au gré des migrations multiples qui arrivent en force avec cette notion de métissage et des souffrances qui vont avec. Et si on se détendait un petit peu,
oui.
Jonathan Haovi, avec oui. quelque chose qui peut devenir sacré, sait-on jamais, soyons optimistes, la culture. Tenez, j'ai retrouvé ce film dans vos bagages.
Et parti.
Non mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou ce mec.
Mais moi les dingues je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi quand on m'en fait trop je correctionne plus. Je dynamite.
M.
Je disperse.
M comme.
Je ventile.
Moulin Rouge.
Alors vous, le psychiatre Jonathan Haovi, qui avait l'air très sérieux devant moi, vous parlez comme ça à vos patients?
Non, mais je rêverais de le faire. Par contre, il y a des patients qui parlent un peu comme ça, et ça, ça me plaît beaucoup.
Avec des dialogues de Michel Audiard, pas mal.
Mais ça me plaît beaucoup.
Vous vous souvenez, vous, sérieusement, de votre toute première fois au pays du Moulin Rouge et des tontons flingueurs?
Ah oui, il faisait gris, il était 10h30 ou 11h du matin. Mais je trouvais ce gris très beau. Et puis je suis allé à Aubervilliers.
Donc au nord de Paris. Encore,
oui.
Encore plus gris.
Oui, mais je trouvais... C'était Paris. Et j'ai mangé un couscous et j'ai bu de l'orangina.
Ah, ça c'est le résumé de Paris, parfait.
Voilà.
Est-ce que vous avez fait vos études au Togo?
Pas à la fin du lycée et les études universitaires. Oui, je voulais partir. Je voulais aller en France. Rejoindre mon frère qui est venu apprendre l'horlogerie et j'ai écrit à mes parents pour qu'ils se débrouillent pour m'envoyer en France.
Donc ils l'ont appris par une lettre?
Par une lettre.
Les timides, ils sont capables de tout, hein. Et donc vous avez franchi tous les cercles de feu de l'initiation, on va dire, française, jusqu'à devenir un jour médecin de campagne dans notre France profonde. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme profondeur?
Beaucoup d'humanité. J'ai été aimé par les patients, les familles. Mais j'ai fait la médecine de campagne comme il existe moins maintenant. C'est-à-dire que les gens venaient avec un gibier cuisiné ou des légumes. Et donc je commençais mes visites très tôt. J'allais chez des gens qui m'ouvraient leurs portes. Ça signifie aussi que le matin à 7h ou même avant, il faut manger des œufs en meurette et boire un coup de rouge.
Ouais. On vous a toujours ouvert la porte?
Le plus souvent. Une fois ou deux, non. Je suis allé soigner une petite fille dans un village qui s'appelle Otum. Son père m'a dit, je vous préviens, je vous mets en garde avant que je passe la porte.
Alors j'ai vu que dans votre CV, vous notiez non seulement votre parcours professionnel, mais pas que, vous notez aussi la naissance de vos enfants et de vos petits-enfants. Et vous notez par exemple 2011, naissance de Maëlle, et puis vous précisez Carteronne.
Oui.
Ça m'a énormément surpris, ça. On se bat aujourd'hui pour que les références ethniques disparaissent.
Oui.
On a même tenté le CV anonyme.
Oui.
Et vous, vous marquez noir sur blanc Carteronne.
Oui, comme on le disait tout à l'heure, moi je veux savoir si. Si les gens que je rencontre existent en tant que... Je ne veux pas une homogénéité sans odeur, sans couleur, sans... Je crois au contraire qu'il y a la place pour tout ça. Alors, je ne pense pas qu'il faut que ma petite fille se présente sous l'étiquette « Je suis Carteronne et je reste enfermée là-dedans ». Mais c'est simplement pour dire aussi que les mélanges se font dans tous les sens.
Mais pour dire aussi que vous avez peut-être un rapport ambivalent à la France, parce que vous, si la France n'a pas toujours la mémoire qu'il faudrait, vous, vous avez de la mémoire. Vous
êtes moi, maintenant.
Si, ça va bien encore sur certains dossiers. Vous êtes un enfant de colonisé. Nous sommes des enfants de colonisé. Et vous n'avez pas oublié, notamment, on ne va pas y revenir en profondeur, mais une page d'histoire qui concerne le Cameroun, la guerre que la France a livrée aux indépendantistes camerounais entre 1955-62. Ça a été une guerre totale de 7 ans qui est passée sous silence. Et ça, vous ne l'avez pas oublié. Est-ce que ça veut dire que vous êtes dans un rapport ambivalent à la France ?
Oui, je suis dans un rapport ambivalent à la France. Parce que la France, elle est ambivalente. Elle est capable d'universalité. Et en même temps, elle est capable de brutalité.
Vous qui soignez les souffrances des exilés, vous sauriez comment soigner cette France qui, en partie, est amnésique ?
Ça va être difficile, mais, mais c'est possible. Par les métissages, c'est possible.
Vous pensez que c'est le métissage qui peut justement soigner là où ça fait mal dans l'histoire de France ?
Oui, parce que je le pensais déjà pour le Togo. Je pense que c'est le métissage entre Nord et Sud. Je pense que le monde mondialisé, c'est inquiétant, mais le monde mondialisé a cette, nous donne l'occasion de ne pas penser qu'il y a un seul nombril du monde.
En sol majeur @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur consacré à Jonathan Aovi, la langue éveille et puis la langue du cœur, avec pour référence, une dernière référence en sol majeur, un fiston musicien d'Ivoire.
Ils sont musiciens dans notre famille. Oui, mais il y en a un qui, c'est Jonas, qui fabrique des musiques.
Jonas Aovi.
Et qui écrit des textes.
Lorsque je suis né, je devais être roi. J'ai cru que l'humanité serait la seule loi. Plus grecque qu'italienne comme Apollonia. Tunisienne, algérienne, qui tu veux que je sois. Méditerranéenne, Italo, Fatima.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et puis bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec l'écrivain Dos Santos. À la semaine prochaine.